Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Dembassala et à Gumbu, des localités du cercle de Nara, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. L'ouverture d'une enquête mixte et l'organisation de patrouilles conjointes le long de la frontière sont les principales décisions de la rencontre entre Maliens et Mauritaniens. Ces échanges ont eu lieu à la suite de la disparition de civils mauritaniens près de Nara. Les marcheurs panafricains Dakar-Bamako sont arrivés vendredi dernier à Kayes. Ces ressortissants de plusieurs pays africains, partis de Dakar au lendemain des actions de la CEDEAO contre le pays, sont attendus à Bamako dans 2 semaines. Le taux de chômage ne cesse de grimper chez les sortants de certaines filières littéraires et scientifiques. Ces diplômés dénoncent le manque de débouchés sur le marché de l'emploi. À la présentation, Mariam Maïga, Mamadi Keïta assure la technique. Une commission d'enquête mixte entre le Mali et la Mauritanie et l'organisation des patrouilles conjointes constituent les principales décisions issues des échanges entre les autorités maliennes et mauritaniennes sur la question de disparition de 30 civils mauritaniens près de Nara. À Bamako, une enquête a été ouverte sur ces événements dimanche dernier par le tribunal militaire et la circulation des civils a été également interdite par les autorités militaires dans la dite zone. Le point avec Ousmane Nyalibouli.
Dans un communiqué conjoint, les deux parties se sont accordées sur la mise en place dans les meilleurs délais d'une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits chargée de faire la lumière sur les derniers événements de l'Ataï. Elle est aussi chargée de partager les résultats de l'enquête réalisée par les autorités maliennes sur les événements ayant entraîné la mort de 7 Mauritaniens à Accor au mois de janvier dernier. Les documents indiquent que la commission est aussi chargée de mutualiser les informations afin de prévenir de tels événements. Les délégations ont également convenu d'organiser des patrouilles conjointes le long de la bande frontalière. Des enquêtes ont aussi été ouvertes ce dimanche du procureur du tribunal militaire de Bamako pour citer les responsabilités sur ces événements. Dans un autre communiqué publié le même jour sur les réseaux sociaux, les autorités militaires ont interdit toute circulation des personnes civiles dans les zones de la forêt de Ouagadou et de la forêt de Gringalé où se déroule l'opération militaire Maliko. Cette décision est prise, selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, pour prévenir toute dégradation des bons voisinages entre la Mauritanie et le Mali, mais aussi préserver l'intégrité physique ainsi que les biens des citoyens maliens et mauritaniens.
Un compte-rendu signé Ousmane Nyalibouli, toujours sur la même question, pour l'analyse des questions diplomatiques et stratégiques, Brahim Soumari, la réalisation de cette enquête aura un double avantage. Il estime qu'elle permettra non seulement de prouver que les militaires maliens ne sont pas liés à cette disparition des citoyens mauritaniens, mais aussi d'identifier les stratégies utilisées par les terroristes dans cette zone frontalière afin d'organiser des patrouilles conjointes. Il est joint par Koumafin Keïta.
C'est une bonne chose qu'il y ait ce genre de commission parce que ça va nous permettre d'une part de voir que notre armée ne peut pas être impliquée dans des actions de dérapage et d'autre part, ça peut nous donner une idée des entrepreneurs de violence qui pullulent dans cette frontière et qui peuvent être susceptibles véritablement de créer du trouble à ce niveau-là pour mettre en difficulté une collaboration entre la lutte contre le terrorisme côté Mali et la lutte contre le terrorisme côté Mauritanien, en sachant que le terrorisme est une mode d'action que les entrepreneurs de violence utilisent. Ils peuvent être djihadistes, ils peuvent être des trafiquants de drogue qui, véritablement, ont pour objet de nous mettre en conflit. Ça peut être également une possibilité pour nous d'avoir une photographie pour savoir quelles sont la tactique de ces entrepreneurs de violence.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Studio Tamani. Une nouvelle preuve de vie du journaliste français Olivier Dubois est apparue dimanche sur les réseaux sociaux. En 1 minute et 9 secondes, le journaliste s'adresse à sa famille mais également au gouvernement français pour accélérer sa libération. Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril dernier à Gao. Par ailleurs, 2 journalistes maliens sont toujours détenus en captivité dans le pays. Il s'agit de Hamadou Nyalibouli et de Moussa Bana Diko. Sur un tout autre sujet, 72 heures après les événements qui ont fait des dizaines de morts dans les localités d'Inchinanan et Tamalette. Les présumés combattants de l'EIGS sont rentrés hier à Andérabukan, chef-lieu du cercle. Aucun combat n'a eu lieu. Ils ont occupé la ville quelques instants avant de s'en aller en y laissant des traces. N'est-ce pas, Boakin Agmouhamedine Yatara?
Selon un habitant de la localité, il était 16h30 quand de nombreux hommes à moto ont fait irruption dans la ville. Des tirs de sommation ont été faits et les réseaux Orange et Move détruits. Ils se sont ensuite dirigés vers le marché où des boutiques ont été vandalisées. Des vivres et du carburant emportés chargés dans deux véhicules. Des boutiques de certaines communautés ont été saccagées et brûlées. Les anciens ont ensuite quitté les lieux, laissant les habitants tirer chez eux toute une nuit. La vie a repris timidement ce dimanche matin, mais la peur s'est installée dans la ville selon les témoignages recueillis sur place. Ce dimanche matin, des hélicoptères étaient visibles dans le ciel de Mineka, chef-lieu des régions. Adrombokan, faut-il le rappeler, est situé à 90 km au sud de Mineka. À la date d'aujourd'hui, l'État n'y est pas présent depuis le repli de l'armée sur Mineka, il y a plus de 2 ans. Adrombokan est aussi à 19 km de Chinagodar, un village nigérien dont les camps avaient été détruits par des présumés djihadistes. Adrombokan est aussi à 19 km de Chinagodar, un village nigérien dont les camps avaient été détruits par des présumés djihadistes.
Quittons à présent le nord du pays pour la capitale du Mégétan. Plusieurs personnes ont été interpellées le vendredi dernier par la police à Koulikoro. C'était à la suite d'un affrontement qui a opposé les exploitants de sable de la région. Ceux-ci étaient divisés sur l'organisation d'une manifestation pour réclamer une augmentation sur les prix des chargements de camions. Moussa Dambélé, porte-parole des manifestants, est au micro de Zoumana Naïté, notre correspondant à Koulikoro.
Les coxeurs violent nos droits. Ils achètent avec nous la benne de 10 roues à 22 500 francs CFA. Il y a 10 à 11 personnes qui travaillent dans une seule pirogue. Quand on divise cette somme parmi eux, ils ne gagnent pas grand-chose. C'est pourquoi nous leur demandons d'augmenter ce prix. De la rive principale à Tientienbougou, on nous donne 35 000 francs CFA pour le chargement d'une benne 14. Et les coxeurs gagnent plus que nous qui travaillons. C'est pourquoi nous demandons une augmentation. Nous avons tenu une réunion hier et nous en ferons aujourd'hui à 15 heures pour informer les gens de ce sur quoi nous nous sommes convenus. Après tout cela, nous avons des collègues qui ont travaillé. Mais le coxeur a appelé la police pour arrêter certains de nos collègues dont nous ne connaissons pas le nombre exact pour l'instant. Ils veulent nous montrer qu'ils sont plus forts que nous car on est pauvres. Mais nous sommes aussi là ce soir et nous n'allons pas retourner tant que nos amis ne seront pas libérés. Nous sommes tous les mêmes.
Allons à Kaï où les marcheurs panafricains Dakar-Bamako, long de 1300 km, sont arrivés sur place. Les marcheurs ont été accueillis à la place publique par une foule avec à sa tête les autorités de la ville. Cette action a été initiée par des ressortissants de plusieurs pays africains à Dakar au lendemain des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Notre correspondant à Kaï, Mahamadou Samba Diallo, était sur place.
Après 26 jours de périple, les marcheurs panafricains sont arrivés ce vendredi à Kaï. Au nombre d'une quinzaine de personnes, dont des femmes, ils affirment que cette action vise à soutenir le peuple du Mali face aux sanctions de la CEDEAO. Didier Keman, porte-parole des marcheurs.
Nous sommes venus pour soutenir le peuple malien et nous soutenons aussi les autorités de la transition. Parce que chaque pays a le droit de choisir son propre chemin. Nul n'a le droit de dicter à un pays indépendant le chemin à suivre.
Les autorités de Kaï ont salué ces gestes, un signal fort pour l'intégration africaine, a déclaré le gouverneur de Kaï, le colonel Moussa Soumaré.
Par votre geste, vous êtes en train de rappeler à ceux-là qui semblent avoir oublié ou qui font semblant d'oublier que l'Afrique est unie. L'Afrique, c'est un seul peuple. Je voudrais vous féliciter pour l'initiative, vous féliciter pour l'effort, pour la bravoure.
À Diboli et Kaï, d'autres jeunes se sont ajoutés aux marcheurs sénégalais. Ensemble, ils doivent continuer les semaines jusqu'à Bamako, où ils sont attendus dans 2 semaines. De Kaï, Mahamadou Samba Diallo pour Studio Tamani.
Parlons de l'emploi à présent. Les diplômés de certaines filières littéraires ou scientifiques ont du mal à se vendre sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage ne cesse de grimper chez les sortants de ces filières. Ces derniers se disent stigmatisés. Ainsi, certains pédagogues prônent la reconversion. Bala Kamara.
J'ai fini la flash en 2012 et l'institut en 2013. Bon, je suis à la maison. Il n'y a pas de travail, on ne t'embauche pas, tu fais des va-et-vient, ça n'aboutit à rien.
C'est le message de désespoir de Kadijatu Tienta, qui est diplômée en sciences sociales et en travailleur social. Comme elle, ils sont des milliers de diplômés maliens sortant des filières littéraires à subir de plein fouet le chômage.
J'ai été soutenu en 2010. Je suis alors à la recherche de l'emploi. Depuis 2011, l'État avait organisé un concours. De 2011 jusqu'à nos jours, il n'y avait pas eu un concours encore concernant le recrutement.
Chaque fois qu'on voit des sages, on fait tous nos efforts, mais par fini, ça n'est abouti à rien.
Vraiment, nous sommes marginalisés. Il y a une inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi.
Pour les pédagogues, le système éducatif malien ne répond plus aux besoins du marché de l'emploi. Mohamed Touré conseille les diplômés dans cette situation de privilégier la reconversion.
Même qui est en défaut. Souvent, tu vas jusqu'à l'université, tu ne sais pas en fait ce que tu vas faire. Il faut les réorienter vers les suites de formation professionnelle. C'est la possibilité de reconversion. Personne n'est fait pour dire que ce que j'ai fait comme diplôme, il faudrait que je puisse avoir obligatoirement cet emploi correspondant au diplôme que j'ai eu. C'est l'école emploi. Depuis 83 qu'on est dans cette situation.
En attendant, ces diplômés interpellent l'État à mieux s'impliquer afin de faciliter leur réinsertion professionnelle.
Pendant ce temps, d'autres ont trouvé une autre alternative pour pallier à ce manque d'emploi. De nombreux jeunes aujourd'hui se sont tournés vers le secteur de l'élevage. Ces jeunes aviculteurs et éleveurs d'ovins et caprins disent subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille grâce à l'élevage. Plus de 70 parmi eux, dont deux filles, ont participé la semaine dernière à la foire internationale de l'Association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines. Au Palais de la Culture, notre reporter Salih Sissoko a fait un tour sur place.
Ce sont plusieurs jeunes diplômés sans emploi à pratiquer l'élevage. Selon certains d'entre eux, à cause du chômage, ils ont été obligés de faire une reconversion dans l'élevage.
Ça crée même de l'emploi parce qu'aujourd'hui, je vis dans ça. Je vends des moutons ici, je vends des moutons aussi. Dans les sous-régions.
Je suis un jeune diplômé, mais je me suis consacré uniquement sur l'élevage des vaches. Il y a trop de rentabilité.
Pour ces jeunes, l'élevage des bovins et ovins est plus rentable que le travail dans l'administration. Mohamed Dibé Traoré est éleveur de volailles.
Ma moto que j'ai actuellement, j'ai acheté ça à 390 000 francs. C'est par rapport aux bénéfices de mes volailles. Les prix varient de 400 000, 500 000. Je vends les pigeons à chaque 6 mois. Pratiquement, je peux avoir plus d'un million et quelques.
Cependant, ces jeunes demandent un accompagnement des autorités afin de développer le secteur de l'élevage au Mali.
Un mot de santé dans cette édition. Depuis quelques semaines, le cercle de Yoroso enregistre des cas suspects de rougeur dont plus d'une dizaine ont été confirmés. La réapparition de cette maladie infantile inquiète les parents. Les autorités sanitaires du cercle assurent prendre des dispositions pour faire face à cette maladie. Notre correspondant à Yoroso, Ali Haïdara, nous en dit plus.
Ici, au centre de santé communautaire de Kouri, Karamoko Sanogo est venu avec son fils de 12 ans. Les garçons souffrent de la rougeole.
Ils m'ont dit qu'il a la rougeole. Il a des boutons partout et il tousse. Il l'a contracté à travers sa petite sœur qui est venue de Kuchala. Il a 12 ans. Je lui ai demandé de rester à la maison. Ça fait des jours qu'il ne va pas à l'école.
Comme au CESCOM de Kouri, des cas de rougeole sont enregistrés dans plusieurs autres communes du cercle de Yoroso. Comme le soutient ici Dr Alou Koulibaly, médecin-chef du centre de santé de référence de Yoroso.
Au jour d'aujourd'hui, on peut confirmer qu'il y a eu des cas de rougeole dans les districts sanitaires de Yoroso. La rougeole est une maladie très contagieuse. Ça se voit très souvent chez les enfants qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, on est à plus d'une dizaine de cas de rougeole suspects, dont 5 ont été confirmés.
Parmi les causes de la réapparition de la rougeole figure le non-suivi des campagnes de vaccination. Cela a été surtout impacté cette année par la COVID, explique Dr Koulibaly. Pas de vaccination des ripostes annoncées à ce stade dans le cercle, mais les cas continuent d'être enregistrés. De Yoroso, Ali Haïdara pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était la présentation Mariam Maïga. Mamadi Keïta a assuré la technique. Ne décrochez pas car l'info continue.